14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Le coup du train postal. Le même que celui que le cerveau a exécuté il y a 3 ans en Angleterre. C'est génial, il n'y a qu'à copier.
Bonjour, clin d'œil dans cette émission, vous l'avez reconnu, à Jean-Paul Belmondo, bien sûr, à qui la France rend aujourd'hui un dernier hommage. Acteur qui fut indifféremment flic et voyou et qui, à sa façon, a écrit une page du crime au cinéma. En 1969, il figurait ainsi au générique du film Le Cerveau de Gérard Oury, scénario librement inspiré de l'un des braquages les plus fous de l'histoire, l'attaque du train postal Glasgow-Londres qui s'était déroulée seulement 6 ans avant la sortie du film. Un convoi bourré de sacs de livres sterling, une incroyable opération commando conduite selon un minutage d'une précision mathématique, un butin de 2 600 000 livres, l'équivalent de 50 millions d'euros, une affaire inouïe, sans le moindre coup de feu, de quoi faire passer les assaillants du Glasgow-Londres pour des Robins des Bois modernes. Je vous raconte aujourd'hui cette affaire qui, plus de 50 ans après, fourmille encore de questions. Qui est donc l'homme qui a imaginé ce casse sur des rails? Où est passé le magot du train postal? Qui était vraiment ces voleurs intrépides? Nos invités tenteront de répondre à toutes ces questions.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'attaque du train Glasgow-Londres, l'un des plus grands casses de l'histoire, attaque de légende, qui commence à l'été 1963 dans le brouhaha, les bruits de locomotives et les sifflets du chef de la gare centrale de Glasgow. Ce mercredi 7 août 1963, une intense activité règne en fin d'après-midi sur les quais de la gare centrale de Glasgow, un imposant bâtiment victorien qui trône au milieu de la cité écossaise. Le Travelling Post Office Special, le train postal spécial, est sur le départ. Des employés chargent les derniers sacs de courrier juste derrière la locomotive. La voiture numéro 2 est parfaitement identique aux autres, sauf qu'ici, un policier en uniforme monte la garde. Ce wagon, qui va bientôt refermer ses portes, renferme un trésor. 128 sacs scellés, remplis de billets de banque. 2 595 000 livres sterling, l'équivalent de 50 millions d'euros. Des sacs placés dans des armoires métalliques, faciles à repérer. Ils portent tous une étiquette rouge marquée des lettres HVP pour High Value Packet, colis de grande valeur. Un trésor de livres écossaises destiné, comme le veut la loi, à être changé auprès de la Banque Centrale Britannique à Londres. En temps normal, il n'y a que 200 ou 300 000 livres dans le train postal. Mais si aujourd'hui le montant est si élevé, c'est qu'il suit un jour férié, le Bank Holiday, au cours duquel les commerçants de toute l'Écosse ont rempli leurs caisses. Ce détail n'a pas échappé à celui que la police va surnommer l'Ulsterman, en raison de son accent irlandais, cet homme de l'Ulster qui a donné le tuyau à une équipe de malfrats londoniens. L'Ulsterman a ainsi offert sur un plateau un train bourré d'argent et une proie facile. Pas de policiers à bord, aucun des 77 postiers n'est armé. Qui plus est, par mesure d'économie, la radio n'a pas été installée sur ce convoi qui, officiellement, ne transporte que du simple courrier. Le train postal quitte la gare de Glasgow à 18h50. Le convoi, tracté par la plus puissante des locomotives diesel britanniques, va rouler sans interruption pendant 640 km. Il doit atteindre sa destination, la gare londonienne de Euston, le lendemain matin à 3h59 précise. Aucun incident jusqu'aux alentours de 3 heures du matin, jeudi 8 août. Passé la localité de Leighton Buzzard, à une bonne heure de Londres, le conducteur de la locomotive, Jack Mills, aperçoit un feu rouge, il stoppe le convoi. Son adjoint descend sur la voie pour décrocher le téléphone d'urgence. Mais les câbles ont été sectionnés. Le feu rouge est un faux, c'est une simple lanterne alimentée par une pile. Le vrai feu a été recouvert par un gant, le cheminot n'a pas le temps de réagir, il est jeté au sol, menottant. Des hommes portant des cagoules et des casques de moto s'affairent alors à détacher la locomotive et la précieuse voiture 2 du reste du convoi. Quatre hommes masqués grimpent à bord de la loco. Le conducteur est frappé à coups de matraque et coups de pied. Le plan prévoit qu'un membre du commando prenne les commandes de la motrice pour avancer un petit kilomètre jusqu'à Bridgo Bridge, le pont de chemin de fer de Bridgo. L'homme en question s'est entraîné, mais une fois au volant, il est perdu. Il ne connaît pas le fonctionnement de la machine. L'opération est en train de capoter. On réveille alors le vrai chauffeur qui, groggy et tremblant, reprend les commandes. Jack Mills restera jamais traumatisé par ces minutes de terreur. Il mourra 6 ans plus tard sans avoir pu jamais retravailler. La locomotive et son unique voiture parcourent le fameux kilomètre pour s'arrêter sur le petit pont. Cette fois, les voleurs forcent les portes de la voiture numéro 2. Les 5 postiers à bord n'ont rien pour se défendre, ils sont matraqués. Aucun coup de feu n'est tiré. En 15 minutes, les 128 sacs sont jetés depuis le pont sur une minuscule route de campagne. Une chaîne d'hommes masqués les charge dans 2 Land Rover et un petit camion Austin portant de fausses plaques. Le commando demande au postier de ne pas donner l'alerte avant 30 minutes, sinon un guetteur leur tirera dessus. L'attaque du train postal, le plus grand casse du siècle, s'est déroulée exactement comme son cerveau l'avait imaginé. Bonjour Philippe Durand, vous êtes l'auteur du livre « Les 20 plus grands casses de l'histoire » aux éditions First et également auteur de la biographie Belmondo, biographie de Jean-Paul Belmondo, donc aux éditions Robert Laffont. Ça tombe bien parce que Belmondo et ce casse, on a l'impression qu'ils sont faits pour presque vivre ensemble. Hein. C'est pas un hasard, c'est une opération de cascade inouïe qui vient de se dérouler cette nuit-là en pleine Angleterre.
Oui, alors bon, effectivement, vous l'avez dit, le film Le Cerveau s'inspire d'assez loin de cette fameuse attaque du Glasgow-Londres. Mais effectivement, la coïncidence est troublante entre Jean-Paul et le casse le plus célèbre du XXe siècle. Et il s'y était intéressé parce que ça l'amusait beaucoup. Mais lui, il l'a fait à sa version, qui était la version bébelle.
Alors, on revient sur la vraie opération, cette véritable opération qui a lieu à bord d'un train, qui est tout à fait spectaculaire. On a l'impression que c'est du cous humain. Tout a été étudié dans le moindre détail.
Oui, alors vous disiez qui est le cerveau. J'avoue qu'on aimerait bien le savoir. Mais en fait, l'organisateur de l'opération, ça c'est sans aucun doute Bruce Reynolds, surnommé le colonel parce qu'il adorait faire des braquages en uniforme parce qu'il savait que ça impressionnait le public et donc c'est lui oui c'est
on va y venir Philippe Durand, on va y venir, vous allez trop vite. Racontez-nous déjà un petit peu ce qui s'est passé cette nuit-là. Je vous dis, c'est extrêmement précis, il y a rien de perdu, tout le monde est à sa place, c'est une opération quasiment militaire.
Tout à fait. Oui, c'est vraiment une opération militaire. C'est-à-dire que tous les hommes sont en place, mais vraiment chacun à son poste. La grande difficulté, c'était de trouver le lieu où va avoir l'attaque, parce qu'il fallait en fait non seulement descendre les sacs, mais les faire monter dans des camions proches et des jeeps, comme vous l'avez dit. Mais après, il fallait une route pour partir le plus rapidement possible. Alors, on pouvait pas faire ça vraiment en rase campagne. Donc ils l'ont fait près d'un pont. Et c'était ça l'idée de génie de cette attaque, c'est ce pont. En fait, les voleurs ont jeté les sacs depuis le haut du pont, ils les ont récupérés, ils ont tout mis dans les véhicules, ils sont partis très très vite. Donc il y a eu l'opération elle-même qui était pas minutée, mais qui était en tout cas très très bien répétée. Et ensuite, il y a eu cette fuite qui elle aussi était organisée. C'est ça, quand on fait un vrai grand casse, il faut penser non seulement du début, mais jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au moment où on emmène le butin. Et ça, Bruce Reynolds l'avait vraiment, vraiment pensé.
Calculé. Vous avez parlé de ce lieu mythique aujourd'hui, c'est Bridgo Bridge. Il est idéal parce que dans cette campagne anglaise, il faut que vous nous racontiez un petit peu ça. Y a personne. Hein. C'est un lieu qui est désert, surtout en pleine nuit. C'est facile de s'évader et de s'évaporer finalement.
Oui, c'est le lieu est effectivement très bien choisi parce que c'est vraiment la campagne un peu, même plus qu'un peu, très isolée. En plus, les voleurs ont eu l'idée de se déguiser en militaire, donc sous-entendu faire croire qu'ils faisaient des manœuvres de nuit, ce qui inquiétait pas du tout les gens, parce que si vous voyez des militaires en pleine nuit, vous vous posez pas la question est-ce qu'ils vont faire un casse.
Bien sûr.
Non, ils font des manœuvres, donc etc. Par contre, l'une des erreurs, parce qu'il y a eu des erreurs quand même dans ce fameux casse, l'une des erreurs, c'est que justement, à jouer les militaires, ils se sont fait repérer, c'est-à-dire que des gens ont vu passer ce convoi militaire.
Et bien sûr,
ils se sont posé des questions.
Il y a des gens qui les ont vus passer, et on verra que ces témoins, par la suite, sont importants. On a Patrick Cojol, cette fois, en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes ancien policier, auteur de nombreux polars, dont le dernier, je le cite, Lettres, L-E-T-R-E-S, Lettres et le néant aux éditions Kem. On dit comme ça, Kem, c'est ça ?
Kern, aux éditions Kern.
Aux éditions Kern, voilà, c'était mal orthographié sur ma petite page. Patrick Cojol, vous connaissez bien, vous, le fonctionnement policier, le fonctionnement des enquêtes. Une telle opération, ça suppose évidemment des dizaines de repérages, des entraînements, je suppose.
Alors oui, bien évidemment. Après, on peut des repérages, des entraînements et également de l'argent. Toute une logistique et de l'argent. Mmh. Donc, on peut voler effectivement des véhicules, un camion, mais il faut de l'argent parce que ceux qui les volent, il faut les rémunérer. Il faut aussi qu'ils payent la location de la maison. Et donc c'est pour ça que quelques temps avant, quelques mois avant, ils ont fait un braquage. Si je me souviens bien, c'est au préjudice d'un camion blindé qui transportait la paye du personnel d'une compagnie aérienne. Et donc ils étaient habillés à l'époque de chapeaux melons, de parapluies. Et donc ça leur a permis effectivement de financer une partie de la logistique.
La police qui se retrouve face à une opération d'ampleur inégalée, au moins une quinzaine d'hommes ont participé à l'attaque, sans compter peut-être les organisateurs et les commanditaires. Beaucoup de monde, cela laisse inévitablement des traces. Ce jeudi 8 août au matin, une cohorte de policiers en uniforme et en civil arpente les abords de Bridgo Bridge, le pont sur lequel la voiture numéro 2 et ses millions de livres sterling a été dévalisée. Le wagon porte encore les stigmates de ce braquage, charnières arrachées, vitres brisées. Scotland Yard et la police locale travaillent de concert respectivement sous les ordres des commissaires Jack Slipper et Malcolm Futrell. Croyant bien faire, les employés des chemins de fer ont réparé le feu rouge et détruit des indices. Les enquêteurs collectent toutefois une poignée de billets de banque ainsi qu'une matraque. Les traces de pas sont nombreuses, mais les empreintes digitales introuvables. Et à l'époque, l'ADN n'existe pas. Le commissaire Futrell est intrigué par l'ultimatum donné par les braqueurs aux chaumineurs. Ne pas bouger avant 30 minutes. Le temps suffisant, peut-être, pour rejoindre une base arrière. Un rayon est alors tracé sur une carte. L'intuition du policier est bonne. 5 jours après l'attaque, 13 août, la ferme de Liverslade, à une quarantaine de kilomètres, est localisée. Une ruine achetée 2 mois auparavant par un londonien pour en faire une résidence secondaire. Les gens du coin ont vu passer récemment 2 Land Rover avec des hommes portant des salopettes de maçons et de peintres. Des ouvriers qui, semble-t-il, s'étaient tout de suite mis au travail en obstruant toutes les fenêtres de la masure. Celle-ci est désormais déserte, mais regorge d'indices. Des sacs postaux vides, une bouteille de ketchup, des billets de Monopoly et le jeu avec sa case prison. La police apprendra plus tard que la ferme devait être incendiée, mais que l'homme chargé de cette mission a préféré déguerpir. La ferme de Liverslade, le repère des assaillants, n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Les hommes de Scotland Yard vont pister le fameux acheteur de la maison et tomber sur un avocat londonien, Maître Brian Field. Malgré son jeune âge, 29 ans, Maître Field a déjà une réputation sulfureuse. Ses clients appartiennent tous à la pègre. Il est soupçonné de servir d'intermédiaire pour les braquages. Dans l'affaire du train postal, l'avocat aurait reçu quelques mois auparavant la visite du fameux Ulsterman, une taupe qui a ses entrées à la poste écossaise. Maître Field aurait ensuite balancé l'affaire à certains de ses clients braqueurs. L'avocat est placé sous surveillance quant aux empreintes relevées dans la ferme, notamment sur la bouteille de ketchup et le jeu de Monopoly. Elle parle des traces qui mènent à des figures connues de la police et de la justice. 3 semaines après le casse, un désormais Roger Cordray, fleuriste à Bournemouth, une station balnéaire du sud de l'Angleterre, est le premier à être arrêté. Il était en train d'écouler des billets de 10 livres. À partir de cette arrestation, l'ensemble du gang va s'écrouler comme un château de cartes. Le 14 septembre, l'avocat Brian Field est interpellé à son domicile. Les autres membres suivent. Fin septembre 63, Scotland Yard a le sentiment d'avoir bouclé l'enquête. Des investigations aussi rapides que le braquage du train postal. Les policiers ont sous la main une quinzaine d'hommes. Il y a là notamment le coiffeur et colosse Gordon Goody, le décorateur Jimmy Hussey, dit Big Jim, qu'on croise parfois dans des dossiers de stupéfiants. Roy James, l'homme qui dirigeait la récupération des sacs à Bridgo Bridge, arrêté après une course-poursuite sur les toits de Londres. Et encore le dénommé Ronald Arthur Briggs, Ronnie Briggs, qui sera bientôt le visage le plus connu du gang, illustrant à lui tout seul l'épopée du Glasgow-Londres. Scotland Yard est satisfait, même s'il manque à l'appel les plus gros poissons. L'informateur grâce auquel un tel coup a pu être monté, il manque aussi dans cette galerie de portraits le cerveau. Les policiers ont leur petite idée sur la question. Il pourrait s'agir d'un certain Bruce Reynolds, mais l'homme vient de s'évaporer avec femme et enfant. Quant aux millions envolés, il semble à tout jamais perdu. Alors évidemment, on va reparler dans cette histoire de Bruce Reynolds, considéré comme le cerveau, même si quelques avis divergent aujourd'hui. On va le retrouver, Bruce Reynolds, un peu plus tard. Braquage éclair, j'ai envie de dire, Patrick Cojol, vous qui êtes ancien policier et aujourd'hui auteur de nombreux polars, braquage éclair et enquête très rapide. Comment expliquer cette rapidité? Il y a trop d'erreurs qui ont été commises par les malfrats?
Bien sûr. Le problème, c'est qu'ils étaient nombreux. Qui dit nombre dit porosité. Vous avez parlé il y a quelques instants de l'interpellation de Cordray. Nanti de l'argent qu'il avait, il aimait beaucoup les voitures. Il est allé dans un garagiste en acheter deux, manque de chance. La patronne était la veuve d'un ancien policier. Donc, comme il a voulu payer
ça, c'est
un
pas
liquide...
Bon.
C'est ballot. Et donc, évidemment, elle a fait le rapprochement. Elle a appelé les anciens collègues de son époux. Et voilà, quoi, entre autres, comment il était interpellé. Donc, effectivement, voilà, il y a eu quand même quelques erreurs. La locomotive, c'est pareil. Ils avaient quand même un machiniste passionné, mais qui était incapable de conduire la motrice.
Ça a d'ailleurs donné Patrick Cojol à une scène assez épique dans cette oui. cabine de locomotive, parce que finalement là ils se sont dit c'est foutu.
Ben oui. Ben oui, faut se mettre à leur place. Donc, ils ont eu quand même l'idée d'aller chercher le vrai mécano, bon, qui a été lui traumatisé, on peut le comprendre, et c'est lui qui a fait le cheminement qu'il fallait, quoi. Mais ça, c'est quand même pas une preuve flagrante de professionnalisme, si on peut dire.
Bien sûr. Voilà. Philippe Durand, journaliste et auteur des 20 plus grands casses de l'histoire, et puis également d'une biographie de Belmondo à qui on rend hommage aujourd'hui dans cette heure du crime. Il avait tourné dans Le Cerveau, et Le Cerveau inspiré directement de cette histoire vraie. Qui sont ces hommes-là qui viennent d'être arrêtés? Ils se connaissent? C'est la pègre londonienne? Ce sont les bas-fonds?
En fait, ce sont plusieurs groupes de la pègre londonienne, donc ils se connaissent un peu, mais pas tous forcément, puisque quand ils ont eu besoin de personnel, on a fait appel à des chefs de groupe en disant « j'ai besoin de gros bras ». Donc on a amené, chacun en a amené 2, 3, 4, 5 copains, etc. Donc c'était des petites bandes qui en ont formé une grande. Mmh. C'est comme ça que ça s'est construit, le CAS.
On en parlait avec Patrick Cojol de ces erreurs commises par ces malfrats. Il y a quelque chose d'incroyable, ce sont ces empreintes qu'on découvre finalement partout dans cette maison.
Non, ça c'est une erreur absolument colossale, j'allais dire presque inimaginable quand on voit, comme vous l'avez dit, la précision du coup. C'est-à-dire qu'au moment où, en fait, il y a eu un moment de panique, c'est-à-dire qu'il devait rester plusieurs semaines, enfin plusieurs jours, ça c'est sûr, dans cette ferme.
Alors racontez-nous ça. Racontez-nous cette histoire, parce qu'effectivement, ils ont été surpris, c'est ça?
Voilà, là, en fait, il est prévu qu'une fois le casse effectué, il reste dans la ferme plusieurs jours jusqu'à ce que les choses se calment. Mm-hmm. Et à ce moment-là, ils vont sortir. Mais ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'était l'ampleur du casse. C'est-à-dire que c'était tellement gigantesque que toutes les polices se sont mis en quête des voleurs. Et donc, comme vous l'avez dit, l'un des responsables de l'enquête a compris qu'en en fouillant dans un cercle très précis, ils vont peut-être retrouver les cambrioleurs, les voleurs. Et donc, il y a eu vraiment, c'est-à-dire que les policiers allaient de ferme en ferme, ils allaient perquisitionner toutes les fermes qui étaient autour du casse. Mmh. Et donc, fatalement, ils se rapprochaient du lieu où étaient les voleurs, et tout d'un coup, il y a eu panique, il a dit, il faut qu'on s'en aille. Donc, ils sont tous montés dans les camions, ils sont partis très rapidement, et l'un a touché une prime en disant « Toi, tu détruis les preuves ». Ouais. Alors, ils pouvaient les détruire soit en brûlant la ferme, ce qui était possible, mais ce qui avait le risque d'attirer vraiment l'attention immédiatement, soit d'une manière ou d'une autre en nettoyant la place.
Bien sûr.
Qu'ils prennent le temps que ça fasse. Mais il ne l'a pas fait. Et donc, toutes les preuves... Quand les policiers sont arrivés dans cette ferme, c'était la caserne d'Ali Baba. Ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient toutes les preuves à leur disposition, des dizaines et des dizaines d'empreintes digitales. Et à ce moment-là, c'était « Allons-y, on va arrêter tout le monde
». Patrick Cojol, je reviens vers vous pour une question. On ne peut pas dire qu'ils soient très bavards, hein, ces gangsters, mais c'est un peu la loi du genre.
Non, mais tout à fait. Ils sont pas là pour ça. Après, c'est vrai qu'ils ont laissé beaucoup de paluches, comme on dit dans notre jargon. Des empreintes, voilà, exactement. Sur une bouteille de ketchup, si je me souviens bien, sur une boîte de Monopoly aussi. Effectivement, ils devaient détruire cette maison. Ils ont été aussi surpris par des voisins. Il y a une dame, une voisine, qui avait trouvé un peu bizarre que dans cette maison, il n'y ait que des hommes et pas de femmes. Et il y a un voisin aussi qui avait téléphoné à la police la veille en disant mais c'est pas normal, ils ont bouché les fenêtres, les volets, c'est pas normal. Et le gars avait appelé notamment à cause d'un camion militaire, parce qu'il avait vu passer un camion militaire. Il avait appelé la police qui avait dit écoutez, on a autre chose à faire avec voilà. Et puis c'est vrai qu'au bout de 2 jours, à force, là ils se sont rendus compte et ils ont été pris. Ils ont entendu aussi un message à la radio en disant on cherche un camion militaire. Vous savez, vous connaissez les journalistes, hein, oui. Vous savez à quel point ils peuvent être bavards. Donc effectivement, ils ont pris peur. Ils n'ont pas détruit. Effectivement, ils ont fait une faute énorme, celle de ne pas brûler la maison ou du moins d'effacer les traces.
Et ils ont déguerpi Patrick Cojol. Hein.
Exactement. Et alors une fois évidemment que les enquêteurs arrivent, comme ils étaient plus ou moins connus déjà de l'identité judiciaire locale, vous comprenez bien qu'après il y a les fils à tirer et puis c'est fini.
Et après tout tombe évidemment. 13 hommes au total vont comparaître devant une cour criminelle pour y être jugés. Au regard de l'émotion provoquée par cette attaque, la justice britannique sera impitoyable. Ce 20 janvier 1964, le procès du Glasgow-Londres s'ouvre devant les assises d'Aylesbury, capitale du comté du Buckinghamshire. Les audiences vont se succéder pendant 3 mois sans apporter d'éléments capital sur l'enquête. Les accusés font profil bas et ne délivrent aucune confidence digne de ce nom. C'est tout juste s'ils se connaissent. La loi du silence règne dans la salle, chaque jour bondée de curieux et de journalistes. L'accusation décrit l'attaque du train comme un crime d'une violence sordide, même si aucun coup de feu n'a été tiré. Une entreprise inspirée par une vaste avidité. Mi-avril, le verdict tombe. Un seul acquitté, un dénommé John Thomas Daly, dont les empreintes étaient sur le jeu de Monopoly, un jeu qui appartenait en fait à son beau-frère, le cerveau en cavale, Bruce Reynolds. Il jouait souvent chez lui. Pour les autres, les peines s'échelonnent entre 3 ans et 30 ans de prison. 7 malfaiteurs écopent de cette peine principale. Ce procès en demi-teinte et ce verdict sévère est loin de mettre un point final à l'affaire du train postal. 4 mois après la sentence, la presse fait ses gros titres avec l'évasion d'un des condamnés de la prison de Birmingham. 3 hommes sont venus le sortir de sa cellule. Charles Wilson se réfugie au Mexique. Moins d'un an après, juillet 1965, c'est au tour du charpentier Ronnie Biggs de se faire la belle en escaladant le mur d'enceinte de la prison de Wandsworth lors d'une séance de gymnastique. Biggs, personnage fantasque et provocateur, va alors devenir une vedette du crime, la vitrine du Glasgow-Londres. Pendant 36 ans, il va échapper à la police britannique. Il parvient tout d'abord à se rendre en France, caché dans un bateau. À Paris, il subit une opération de chirurgie esthétique pour modifier son visage. On le retrouve ensuite en Australie, où il fabrique des décors de cinéma et où son épouse et leurs 2 enfants l'ont rejoint. Il échappe de justesse à une arrestation et s'installe au Brésil. Dans ce pays qui n'extrade pas les étrangers, il reçoit journalistes et admirateurs dans un petit appartement de Sepetiba, se montre à la télé, vend des livres et des t-shirts à la gloire du braquage du siècle, transformant ainsi le Glasgow-Londres en un spectaculaire fonds de commerce. Patrick Cojol, ancien policier et auteur de nombreux polars, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous connaissez bien cette histoire du Glasgow-Londres. Il y a ce procès qui est rondement mené, on peut le dire. Finalement, on attend des montagnes, des miracles de ce procès, mais ça accouche d'une souris.
Mais exactement, de toute manière, comme on dit dans le jargon policier, ils sont encrustés, c'est-à-dire qu'avec avec les empreintes qui sont découvertes, c'est fait. Donc ils en disent le minimum, ils confortent évidemment les enquêteurs sur ce qu'ils savent déjà. et ça ne va pas. On n'en apprend pas énormément. Vous comprenez bien que ce qu'il y a à préserver, la seule chose qu'ils peuvent préserver, c'est évidemment l'argent. Hein, c'est la seule chose qui peut leur rester.
Qu'ils ont je pense, déjà dépensé.
D'en dire.
Qu'ils ont déjà dépensé, comme vous le disiez tout à l'heure.
Exactement. Hein, donc, voilà, exactement. Certains l'ont dépensé, d'autres l'ont peut-être transporté et mis de côté. Mais nous en reparlerons, notamment l'Ulstermar.
Oui, on va y venir.
On va y venir. Et voilà, donc, en fait, oui, ça accouche d'une souris.
Ça accouche d'une souris. Philippe Durand, journaliste, vous avez écrit un livre qui s'appelle Les 20 plus grands casses de l'histoire. Et puis, vous êtes aussi l'auteur d'une biographie de Belmondo. Belmondo, je le précise, à qui on rend hommage aujourd'hui dans l'heure du crime avec cette émission consacrée au cerveau. C'était le titre d'un film, sauf que là, on est dans la réalité. C'est l'histoire vraie du cerveau et du casse du Glasgow-Londres. Dites-nous quelques mots, Philippe Durand, sur ce fameux Biggs. Alors, lui, c'est un des malfrats, si je puis dire, et il va devenir une vedette. C'est incroyable, c'est un personnage de roman d'un seul coup.
Oui, alors, j'allais dire qu'il y en a deux des Ronnie Biggs. Il y a celui qui déteste tous ses complices parce que, d'après lui, il n'a pas fait grand-chose sur le terrain, donc évidemment. Et puis, il y a la star que lui-même, enfin, il s'est autodéclaré star, puisqu'une fois au Brésil, là, il a commencé à faire beaucoup parler de lui. Pour quelle raison il fait parler de lui? Tout simplement parce qu'il a besoin d'argent. Contrairement à ce qu'on croit, un butin disparaît très très vite, surtout quand on est en cavale. Et donc il a compris qu'il pouvait monnayer ses interviews auprès des journalistes. Comme vous l'avez dit, il peut vendre des t-shirts, on peut le prendre en photo. Vous êtes en photo avec le cerveau, puisqu'il se disait le cerveau du Glasgow-Londres, mais les photos étaient payantes. Et donc il s'est fait beaucoup de publicité, et c'est vrai qu'on a parlé de lui pendant des années. On dit c'était le symbole du Glasgow-Londres, puisque c'était le seul qui osait parler du casse à ce moment-là. Tous les autres qui étaient en prison ou qui en étaient sortis ne disaient pas un mot sur ça. C'était vraiment la loi du silence. Pour les raisons que vous avez expliquées, c'est qu'il faut surtout pas dire où est l'argent.
Bien sûr.
Alors que lui faisait déclaration sur déclaration.
Manque donc toujours à l'appel du Glasgow-Londres le cerveau, l'homme qui a planifié et organisé les moindres faits et gestes du commando. Il avait pris la fuite juste avant la vague d'arrestation. Il va bientôt et enfin réapparaître. Scotland Yard aimerait bien mettre la main sur Bruce Reynolds, un homme qui a passé la trentaine et exerce officiellement la profession d'antiquaire. Reynolds, surnommé Napoléon depuis le braquage d'un fourgon postal sur l'aéroport d'Heathrow, est soupçonné d'être le grand architecte de l'attaque du Glasgow-Londres, la chapelle Sixtine du braquage, comme il l'appellera lui-même. Mais Reynolds est insaisissable. Après l'affaire, il a disparu de la circulation. Il est passé par Bruxelles et a pris la fuite à Mexico City avec un faux passeport au nom de Keith Clement Miller. Sa femme et son fils l'ont rejoint sur place. La famille émigre au Canada mais se fait repérer. Début 1968, 5 ans après l'attaque du train, Bruce Reynolds revient s'installer en Angleterre, au nez et à la barbe des autorités. Il a changé d'apparence et vit en famille à Torquay, dans le Devon, sous un faux nom. Celui qu'on appelait Napoléon compte bien reprendre du service, mais la police ne va pas lui en laisser le loisir. Il est arrêté le 9 novembre 1968. Il plaide immédiatement coupable dans l'affaire du Glasgow-Londres. Condamné à 25 ans de prison, Bruce Reynolds se livrera à quelques petits trafics d'amphétamines. Il mourra sans un sou en 2013. La star excentrique du braquage, Ronnie Biggs, va elle aussi connaître un pâle destin. En 2001, après 3 attaques cérébrales, il décide de quitter le Brésil pour rentrer au pays. Il contacte lui-même Scotland Yard pour obtenir un passeport. Il est aussitôt arrêté à sa descente d'avion, écroué dans la prison de haute sécurité de Belmarsh. Il va y rester 8 ans, c'est un vieillard recroquevillé sur un fauteuil roulant qui est libéré pour raison médicale. 2 jours avant son 80e anniversaire, il meurt 4 ans plus tard. Philippe Durand, journaliste, on vous retrouve, vous connaissez parfaitement cette affaire sur laquelle vous avez écrit dans l'un de vos livres. Question très simple, Philippe Durand, le cas Bruce Reynolds, ce nom qui vous brûle les lèvres depuis le début de l'émission, cerveau ou pas cerveau ?
Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas trop. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'organisateur, oui. C'est lui qui a organisé l'opération, ça c'est sans aucun doute. Maintenant, ce qu'on appelle un cerveau, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a l'idée de base et qui donne les grandes directives de voilà ce qu'on va faire, on va attaquer un train et tout ça. Alors, est-ce que c'est lui qui a eu l'idée? On ne sait pas. Enfin, moi, je ne sais pas vraiment. Il y a eu tellement de pistes qui ont été données autour d'un cerveau mystérieux qui aurait échappé à toute poursuite, l'Ulsterman dont on va parler et tout cela. Donc, reconnaissons que Bruce Reynolds a organisé ce cas, ça c'est sans aucun doute. Cerveau ou pas cerveau, je vous renvoie la question.
Mais juste un mot, Philippe Durand, il faut dire que Bruce Reynolds c'est un gangster chevronné. Hein. Il aime organiser les coups. Hein. D'ailleurs, quand il est revenu en Angleterre, il avait encore des idées.
Bien sûr. Non, c'est pour ça qu'en fait, il se faisait appeler le colonel. C'est pas seulement parce qu'il portait des uniformes quand il faisait, pas toujours, mais souvent quand il faisait ses attaques, mais aussi c'est parce qu'on reconnaissait son sens de l'organisation. On le respectait, il était très respecté de par la pègre, et c'était un organisateur très très efficace.
Patrick Cojol, ancien policier et auteur aujourd'hui de Polar et qui connaît également parfaitement toute cette histoire. Alors vous, c'est un autre nom qui vous brûle les lèvres depuis le début de l'émission, c'est ce fameux Ulsterman, c'est l'homme qui aurait donné clé en main ce casse au malfrat. Alors là, c'est un mystère total, l'Ulsterman.
Absolument, mais alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce type d'opération, quand bien même vous avez un cerveau entre guillemets génial, il faut à la base une information. Donc bien évidemment, il y a un indice, il y a quelque chose. Donc on parle de cet Ulsterman, donc cet homme à l'accent irlandais qui aurait donné l'information. Alors il semblerait que, alors je crois que c'est en 2014, que son identité ait été dévoyée. Comme étant Patrick.
Ouais. Voilà. Ouais, on en dira un petit mot à la fin. Je voudrais que vous me disiez comment, pourquoi on le surnomme l'Ulsterman? On l'a entendu parler, il s'est manifesté.
Il a un accent, voilà.
Alors allez-y.
Il a un accent irlandais, et cet accent irlandais donc transparaît, et les enquêteurs pensent, voilà, que c'est lui qui se postier, cet informateur de base. Certains ont même dit, à un moment donné, qu'il avait fait partie des services secrets britanniques. Bon, tout ça, c'est une gageure, c'est certainement une affabulation. Mais enfin, quoi qu'il en soit, moi, en ce qui me concerne, il doit y avoir quand même un indique, il doit y avoir un informateur à la base.
Oui, il y a un indique, un informateur, et puis celui-là, il est parfaitement informé parce qu'il sait déjà tout. Donc, il est très possible qu'il soit effectivement un employé même de haut niveau de la Poste. C'est une éventualité tout à fait possible. Philippe Durand, journaliste, votre avis là sur l'Ulsterman, qu'est-ce que vous pouvez en nous en dire de cet homme, le personnage le plus mystérieux de cette histoire?
Pour moi, l'Ulsterman, j'allais dire, n'est qu'un informateur. C'est-à-dire que c'est lui qui fournit effectivement l'information. C'est lui qui est appelé le soir du casse, parce que en fait, le casse a été décalé d'une nuit, parce que c'est lui qui a prévenu la bande à Reynolds en disant, attendez, n'y allez pas ce soir, le train ne va pas partir, il partira demain. Donc il y a effectivement un contact, sans aucun doute, avec un informateur, mais très 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 bien informé, à Glasgow. Quelqu'un qui était très au courant des départs des trains et qui connaissait exactement l'emplacement du train, parce que comme vous le disiez, le train était anonyme, on ne pouvait pas savoir où était l'argent, lui le savait parfaitement, donc cet informateur existe. Maintenant, est-ce qu'il est le cerveau, est-ce que c'est lui qui a tout inventé, ou est-ce que c'est simplement lui qui a suggéré l'idée?
Ça, on ne le sait pas, évidemment. Bruce Reynolds, le cerveau présumé, et Ronnie Biggs n'ont jamais donné les clés permettant de savoir qui avait vraiment fait quoi dans cette affaire et qui en était le véritable instigateur, peut-être un responsable de la Poste britannique. Plus de 50 ans après l'attaque du train postal Glasgow-Londres, l'histoire continue de susciter questions, supputations, explications plus ou moins fantaisistes. Le personnage de l'Ulsterman, l'homme à l'accent irlandais, l'informateur à l'origine de l'affaire et qui a reçu sa part de butin, reste une silhouette en filigrane. Scotland Yard avait enquêté au sein de la Poste, interrogé les responsables, informé de ce gigantesque transport de devises, des investigations qui n'avaient donné aucun résultat. L'un des membres du commando, l'ex-coiffeur Gordon Goody, reconverti en patron de bar sur la Costa del Sol, en Espagne, avait fini par donner un nom, celui de Patrick McKenna, un employé des postes irlandais travaillant à Londres au centre de courrier d'Islington. Il avait vu son nom sur un étui à lunettes qu'il avait oublié lors d'une visite de préparation du coup. aucune preuve ne viendra corroborer cet aveu très tardif. L'argent du Glasgow-Londres n'a jamais refait surface. Les petites coupures entassées dans des sacs, essentiellement des billets de 1 et 5 livres, auraient été rapidement partagées et vite dépensées. Les numéros de billets n'étaient pour la plupart pas répertoriés. Une légende tenace dit qu'une partie du trésor est enfouie dans une forêt anglaise, mais il ne s'agit dans cette histoire que d'une légende, une de plus. Patrick Cojol, ancien policier et auteur de Polar, on vous retrouve dans cette heure du crime. Je ne peux pas m'empêcher de citer à nouveau Bruce Reynolds, le cerveau de cette opération. Il disait de cette opération, c'était la chapelle Sixtine des casses. C'est comme ça qu'on peut le voir, ce cas, ce Glasgow-Londres ?
Alors écoutez, je ne sais pas personnellement si les voix du Seigneur sont les mêmes que celles de la SNCF, mais n'allons pas jusque-là, mais... C'est vrai que c'est un beau casse, c'est vrai. Même si, alors je vais pas dire que 52 millions d'euros ne sont rien, mais j'ai fait moi-même un livre il y a quelques années sur les plus grands casses du siècle. Il y en a un qui a fait un braquage de train, un casse de train qui a fait 430 millions d'euros, l'équivalent de 430 millions d'euros aujourd'hui. C'est joli. Alors c'est vrai que le contexte était différent puisque c'était en 1944. Et donc c'était le casse d'un convoi qui partait de Périgueux à Toulouse, un convoi de la Banque de France, qui a été intercepté par les maquisards. Les maquisards, pardon, à Neuvik, et donc 430 millions.
Le contexte était un peu différent, effectivement.
Même s'ils ont fait des fautes, voilà.
Sur ce casse, le Glasgow-Londres, vous reconnaissez que ça reste aujourd'hui dans la mémoire criminelle quelque chose de très important.
Bien sûr, bien sûr. Même s'ils ont fait des fautes, même s'ils ont été interpellés rapidement. Ce qui est intéressant aussi à savoir dans ce type de cas, c'est à quel point, si vous voulez, la conception la plus aboutie d'un braquage peut se désagréger sous un infime détail, sous un jeu de Monopoly, sous une empreinte, sous quelque chose. La conception est remarquable, mais alors après, plus on est nombreux, comme j'ai dit tout à l'heure, plus il y a de porosité. Et c'est là où après le soufflet retombe et le château de cartes s'effondre. Et c'est voilà.
Bien sûr.
C'est resté dans la légende comme telle et c'est important, oui, bien sûr.
L'erreur, la petite erreur, le grain de sable, ça fait partie aussi évidemment du crime. Philippe Durand, journaliste et auteur des 20 plus grands casses de l'histoire, et puis également d'une biographie de Belmondo. Pas étonnant que le cinéma se soit inspiré de cette histoire, même si le cerveau est éloigné de cette histoire. Il y a encore beaucoup de mystères qui persistent dans ce dossier. L'Ulsterman, c'est peut-être le dernier mystère, mais l'argent, on ne sait pas du tout où c'est passé. C'est fini, évaporé.
On peut imaginer quand même que beaucoup d'argent a été dépensé. Enfin, tous ceux qui se sont qui étaient en cavale, ça, c'est sans aucun doute, l'ont dépensé en totalité. Maintenant, effectivement, il y a eu des achats qui ont été faits, et puis il y a l'argent planqué. Ça, c'est toujours le cas dans tous les casses. Mais c'est vrai que ce casse a eu un impact colossal dès sa création, dès sa connaissance, ça faisait la une de tous les journaux. Et puisque vous parliez de cinéma, il y a eu plusieurs films autour de ce casse, mais il a surtout été référencé dans beaucoup de films. C'est-à-dire, quand on dit qu'un quelqu'un dans un film dit le casse du siècle, c'est forcément le Glasgow-Londres.
Et effectivement, Belmondo, même s'il n'a peut-être pas le premier rôle dans ce film, le cerveau, il incarne à merveille ces espèces de gangsters cascadeurs, j'ai envie de dire.
En fait, si on se replace dans le cerveau, il y a deux bandes. Il y a la bande de David Niven, donc la bande des vrais casseurs. Et il y a les bandes de bras cassés, c'est Jean-Paul Belmondo et Bourvil, qui en fait font le même casse en même temps que le cerveau, mais pas de la même manière. Donc c'est une histoire, bien entendu, totalement inventée. Jean-Paul s'amuse beaucoup à faire ça. Et quand je disais tout à l'heure que Belmondo était très très attiré par les voleurs, n'oublions pas qu'il a été le héros d'un film qui est aussi mythique, qui s'appelle tout simplement Le Casse.
Le Casse, absolument.
Ça n'est pas une coïncidence.
Absolument.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Bonjour, Cécile Hubert. Alors que s'est ouvert le procès le plus long de l'histoire, celui des attentats du 13 novembre, nous vous proposons d'écouter certains de ceux pris dans cette nuit d'effroi. Policiers, rescapés, médecins, ils nous racontent leur 13 novembre dans notre podcast « Le procès du siècle ». Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur l'application RTL et toutes nos plateformes partenaires.